Vous écoutez, on lit pour vous.
Ramshackle, ou une exploration des modes de vie alternatifs, ténois. Un texte de Cristiano Pereira, paru le 18 août 2023 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. C'est l'histoire de deux jeunes Québécois qui traversent le Canada dans une voiture d'occasion et de leur mode de vie les premiers mois, en dormant dans leur voiture, jusqu'à ce qu'ils tombent complètement amoureux de la capitale ténoise. Mais c'est bien plus que cela. Sans le dire explicitement, le livre se révèle être une déclaration d'amour à Yellowknife et à ses citoyens. De plus, le livre est aussi un éloge de la vie simple et tout au long de son récit, on sent un certain renoncement à la vie matérialiste. Cette idée est particulièrement présente dans les moments où le couple, habitué à dormir dans la voiture, est intimidé par la grandeur des maisons luxueuses lorsqu'il commence à faire du gardiennage. À la fois parce qu'on ne se sentait pas à notre place et aussi parce qu'il y avait tout simplement trop d'espace. Le récit est ponctué de fréquentes incursions dans le contexte historique de Yellowknife et de brèves explications sur certaines particularités de la vie dans la capitale ténoise, comme, par exemple, l'eau camionnée ou les seaux hygiéniques, avec un guide d'utilisation pratique, communément appelé « honey buckets ». Plusieurs pages sont consacrées au lieu qui s'est avéré déterminant dans l'affection que l'auteur a développée pour la ville, le Woodyard. Allison McCreesh parle du principe qu'une partie de l'histoire du Woodyard est inspirée du livre de Fran Hercombe, Old Town, A Photographic Journey Through Yellowknife's Defining Neighborhood. L'influence du Woodyard sur la vie d'Allison est l'un des aspects les plus proéminents du livre. Si dormir dans sa voiture peut être romantisé, l'écrivaine insiste sur le fait qu'avec les moustiques et la pluie, ce n'était pas vraiment le rêve de van life qu'on s'imagine. Les grandes maisons du gardiennage semblaient également ne pas faire partie de l'environnement du couple. C'est en entrant pour la première fois au Woodyard qu'ils ont ressenti quelque chose de spécial. Aujourd'hui, près d'une décennie et demie plus tard, elle confie à Média Ténois que cette époque fait partie de ses meilleurs souvenirs. Quand on a trouvé le Woodyard, puis ses petits shacks, et le fait qu'on pouvait vivre de façon alternative, on est vraiment tombé en amour. C'est ça, vraiment, le sentiment de se dire que c'était ce qu'on voulait et de se reconnaître dans ce style de vie. Elle souligne la pureté de l'esprit communautaire qui régnait entre les voisins des petites cabanes. J'imagine que ça prédispose à ça quand tu vis avec des petites maisons plus rapprochées. Ce n'est pas chacun sa maison, chacun son terrain. On partage des airs communs et on vit dehors un peu plus quand c'est plus petit. Tout le monde se côtoyait avec les petits chemins qui se promenaient entre les maisons. On avait notre petite cabane et on était vraiment heureux. On se sentait comme si on était chez nous. Dans les pages du livre, elle explique aussi qu'une raison pour laquelle Woodyard a survécu aussi longtemps est qu'il se trouve sur des terres provinciales et n'est pas sous la juridiction municipale. Elle rappelle toutefois que plus tard, en 2015, le terrain a été transféré au ministère des Affaires municipales et communautaires et avoue sa crainte pour l'avenir de ce lieu. À présent, Allison McCreesh est en train de terminer une nouvelle bande dessinée dont la publication est prévue pour 2024. L'auteur révèle que l'histoire s'étend sur 10 ans et commence par l'époque où elle faisait de l'autostop autour de Dawson, dans le Yukon, et plus tard, à l'époque où elle est devenue mère et en racontant également ses nombreuses expériences au Nunavut. C'est une histoire avec des endroits où beaucoup de gens n'ont pas nécessairement eu l'occasion de voyager. Puis, pour qui ça peut paraître être un peu l'aventure ou un peu exotique, dit-elle. L'auteur, franco-ténoise, conclut que c'est quand même une histoire très universelle de la vingtaine, de passer de l'aventure à un peu plus de responsabilité d'adulte. C'est sur cette transition-là. C'était Ramshackle ou une exploration des modes de vie alternatifs ténois. Un texte de Cristiano Pereira, paru le 18 août 2023 dans L'Aquilon des territoires du Nord-Ouest.
Un festival et son âme. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Le Festival international de littérature, FIL, de Montréal, fête cette année son 30e anniversaire. L'occasion est belle pour revenir sur ces 3 décennies d'histoire, mais aussi pour braquer les projecteurs sur celle qui le tient à bout de bras. Michèle Corbeil, directrice du FIL et grande défenseuse des livres. Par un matin caniculaire, Michèle Corbeil nous accueille avec un grand sourire dans son petit bureau du Mile End, là où la modeste équipe du FIL fait naître chaque année, avec quelques bouts de ficelle et un travail acharné, un festival unique et reconnu à travers la francophonie. Entre ces murs résonne la riche histoire du FIL. Les affiches des différentes éditions du festival, des morceaux de décor glanés ici et là, et les photos des grandes personnalités qui l'ont animé. Au centre, Michèle Corbeil, la personne la mieux placée pour raconter cette aventure. Celle qui porte le triple chapeau de co-directrice générale, directrice artistique et directrice des communications, est aussi la mémoire vivante du FIL, puisqu'elle est la seule à avoir été de toutes les éditions depuis ses débuts en 1994. Les yeux pétillants, elle se souvient de l'effervescence qui animait le milieu culturel québécois à cette époque. En 1994, il faut se rappeler que Gaston Miron, Anne Hébert et Régent Ducharme, tous ces piliers de la littérature étaient encore vivants. C'est aussi l'année où le Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ, a été fondé. Le musée d'art contemporain venait d'emménager à la place des arts. L'usine C était sur le bord d'ouvrir. On inventait des choses, raconte celle qui avait alors été embauchée comme coordonnatrice et femme à tout faire de ce premier FIL. La vague des festivals déferlait alors sur Montréal. Musique, danse, cinéma, humour, etc. Mais rien pour la littérature. L'Union des écrivaines et des écrivains québécois, UNEC, a décidé de remédier à ce manque en créant un événement entièrement consacré aux écrivains, mais qui sortait du cadre habituel des bibliothèques et des salons du livre. L'objectif était de briser l'isolement des écrivains, de les faire connaître de façon différente en les faisant travailler avec des artistes d'autres disciplines, explique Michèle Corbeil de sa voix douce. Même si elle ne se décrit pas comme nostalgique, la femme de lettres se fait un plaisir de replonger dans les nombreuses archives photographiques que le festival a accumulées à travers les époques. Au fil des photos qui s'affichent sur son ordinateur, ce sont certaines des grandes soirées du FIL qui renaissent. Cabarets littéraires, lectures publiques et autres adaptations scéniques de grands textes. Sur scène, des grands de notre littérature comme Marie-Claire Blais, Dany Laferrière, Robert Lalonde, Joséphine Bacon ou Rodney Saint-Éloi, mais aussi des amoureux des lettres comme Gilles Vigneault, Chloé Sainte-Marie et Marie Chouinard. Croissance. Le festival s'est détaché de l'UNEC en 2005 pour voler de ses propres ailes et continuer à croître. En étant la créature de l'UNEC, le festival n'avait pas accès à certaines sources de financement. Et tant qu'il appartenait à l'UNEC, les grandes orientations et enjeux étaient discutés à l'Assemblée générale de l'UNEC, à laquelle je ne pouvais pas assister parce que je ne suis pas écrivaine, rappelle Michel Corbeil, qui a pris la direction de l'événement la même année. La séparation naturelle s'est faite sans heurts et les deux entités conservent aujourd'hui des relations cordiales. J'ai toujours été extrêmement reconnaissante envers l'UNEC. La beauté du festival, c'est qu'il a été pensé, créé et fondé par des écrivains et écrivaines. Sa mission, c'est de faire la promotion des écrivains, du livre et de la lecture, par tous les moyens possibles. Avec les années, le FIL a investi de nouveaux lieux, comme la Place des Arts, et a accru son rayonnement en accueillant des artistes internationaux de renom comme Fanny Ardant, Sammy Frey, Jane Birkin ou encore Jean-Louis Trintignant, un fidèle de l'événement. Les spectacles se sont professionnalisés, notamment grâce à l'apport de Lou Artaud, qui fut directrice de production pendant quelques années, et les plus grands metteurs en scène chapeautent des spectacles du FIL, Denis Marlowe, Angela Conrad, Martin Fauché, Brigitte Hankins, etc. Des moments de folie comme Poésie, Sandwich et Autre soir qui penche, spectacle annuel présenté pendant 10 ans, ont fait la renommée de l'événement, alors que des lectures, comme celle de La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy, ont été reprises et montées sur les planches des plus grands théâtres. En 3 décennies, le FIL aura fait naître plus de 1000 manifestations artistiques qui ont fait se rencontrer plus de 5000 écrivains et artistes et 300 000 festivaliers. Pas mal pour un événement dont le budget de départ s'élevait à 25 000 $. Le travail d'une vie. L'épopée du FIL n'est pas un long fleuve tranquille pour autant. En 2011, l'événement se voit retirer à quelques mois de sa présentation une importante subvention du gouvernement fédéral, grevant son budget et remettant en cause son existence même. C'était extrêmement compliqué à ce moment, se souvient avec émotion Michel Corbeil. On était au mois de juillet. J'étais seul dans mon appartement et je pleurais au milieu de mes livres en me disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» L'ADG s'en est sorti en organisant des soirées bénéfices et en renonçant à une partie de son salaire. « Le plus important a toujours été de payer mes artistes », insiste-t-elle. Pendant des années, ça a été pas facile, mais j'ai senti un énorme soutien autour de moi. La plus grande fierté de Michel Corbeil est d'ailleurs d'avoir su créer une communauté de collaborateurs fidèles et profondément engagés dans la réussite de l'événement et la promotion du livre. Mais malgré les succès du FIL et son ancrage profond dans la vie culturelle montréalaise, la directrice générale demeure inquiète quant à sa survie lorsqu'elle décidera de céder sa place. La crédibilité et le travail du festival sont reconnus. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je ne suis pas éternelle. À un moment donné, il va falloir que je passe la main. Et c'est la survie même du festival qui est en jeu. Avec passion, elle relate tous les efforts qu'elle met avec sa petite équipe dans l'organisation du festival, les vacances repoussées, les semaines de travail de 7 jours. Je suis convaincu que je ne pourrais pas engager quelqu'un qui accepterait de faire tout le travail que je fais, à la fois à la co-direction, la direction artistique et les communications, explique celle qui a accepté presque à regret une augmentation de salaire imposée par son conseil d'administration. Contre vents et marées, elle se promet de tenir la barre du FIL tant et aussi longtemps qu'elle se considère comme pertinente. « C'est l'amour que j'ai pour cet événement qui me fait tenir », dit-elle en pesant ses mots. « J'y crois profondément. Je l'aime depuis la première édition. Le plaisir que j'en retire est immense. Ce que j'aime, c'est donner aux gens l'envie de lire un livre. Travailler avec les écrivains, les artistes, c'est un pur bonheur. Je suis au service de la littérature, des écrivains, du livre. C'est ça, ma vie. C'était « Un festival et son âme », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Adaptez les nouvelles technologies à vos besoins. Faites appel à la clinique d'accès aux aides technologiques. Un texte d'Aline Vancompernol, paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad. Les tiroirs de l'atelier de la clinique d'accès aux aides technologiques regorgent de gadgets en tout genre. Pour l'œil non averti, ils ressemblent à de simples fils ou à de petits objets électroniques ou en plastique, mais chacun d'entre eux a bien un usage précis qui vise à rendre plus autonome une personne en situation de handicap dans l'usage des nouvelles technologies. Nous parlons ici de téléphone, d'ordinateur, de tablette, de systèmes de contrôle de l'environnement ou encore de manettes adaptées pour les jeux vidéo. Le tout est installé au Centre de réadaptation en déficience physique Lucie Bruneau à Montréal, rattaché au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Il en existe d'autres du même genre dans chaque région administrative du Québec. L'accès à un téléphone cellulaire, l'une des premières choses auxquelles les nouveaux blessés médulaires demandent à avoir accès le plus rapidement possible. Personne ne peut désormais se passer de son cellulaire. Il peut simplement suffire d'accéder aux commandes vocales du téléphone. Celles-ci demandent cependant une programmation et de la pratique. Avec certains cellulaires, on peut tout faire par la voix. Pour l'organiser, il faut souvent un entraînement, un aide-mémoire, car il faut apprendre les commandes vocales exactes pour que le téléphone réponde. Les clients gagnent à avoir un encadrement au début, car cela peut vite devenir frustrant, et les clients peuvent se décourager. Il faut qu'ils apprivoisent tout ça, explique Sophie Laplante, ergothérapeute spécialisée à la clinique, son téléphone en main, prêt pour une démonstration. Des technologies en évolution constante. Sophie Laplante travaille depuis 3 ans à la clinique et est passionnée par son travail. Attirée par les nouvelles technologies, elle a demandé à intégrer la clinique et a été mentorée pendant 1 an et demi à ses débuts, afin de maîtriser l'utilisation de ces objets sans cesse en évolution. La manipulation semble simple et souvent les personnes qui passent par la clinique essaient d'abord de se débrouiller eux-mêmes pour adapter leur téléphone ou encore leur maison. Sophie Laplante constate que, trop souvent, les clients qui sont rentrés chez eux après leur séjour à l'IRGLM achètent de nombreux gadgets sur Amazon, des choses qu'ils voient sur Internet et qui ont l'air de bien fonctionner, mais en pratique, c'est plus compliqué. On voit certains clients qui, avant de venir nous voir, ont acheté beaucoup d'items qui n'étaient pas adaptés à leurs besoins. Les systèmes de contrôle de l'environnement présents sur le marché grand public peuvent poser de sérieux problèmes pour une personne tétraplégique qui dépend de cette technologie, et elle peut parfois même rencontrer des enjeux de sécurité. Si une porte reste fermée ou une lumière allumée et que la commande vocale ne répond pas, Il suffit pour une personne qui n'est pas en fauteuil de se lever pour activer la commande manuellement. Mais une personne dont la mobilité est limitée se retrouvera coincée si le système est défaillant. Il en est de même pour un contrôle de lit défectueux. Rester coincé dans son lit ou dehors pendant une tempête de neige peut constituer un danger important, ajoute l'ergothérapeute. Des conseils et du matériel spécialisé. Sophie Laplante recommande donc toujours de consulter la clinique afin d'obtenir les conseils fiables de spécialistes et un matériel qui sera le plus adapté possible à la condition spécifique de la personne et à son environnement personnel. Quand un client fait appel à nous, il nous parle de ce qu'il voudrait, de son environnement et de ses capacités. L'ergothérapeute détermine ses besoins en matière d'aide technologique et essaie diverses solutions en expliquant les avantages et les inconvénients. Nous nous déplaçons beaucoup chez les gens. Nous avons une grande flexibilité. Nous prenons le temps de faire des recherches et des essais en collaboration avec divers spécialistes dans le domaine informatique, électronique et autres. Détail Sophie Laplante. Les ergothérapeutes de la clinique reçoivent à la fois des demandes de personnes qui sont nouveaux blessés médulaires ou de personnes qui sont blessées depuis longtemps mais qui souhaitent changer leur système. Certains clients sont référés par leur ergothérapeute, par un professionnel de la santé qui connaît la clinique ou encore s'auto-réfèrent. Il arrive souvent que les clients ne savent pas que telle ou telle adaptation existe et ils peuvent croire qu'ils ne sont pas en mesure d'utiliser un cellulaire ou un ordinateur, reprend Sophie Laplante. Les ergothérapeutes sont fiers de pouvoir aider leurs clients à retrouver le contrôle, même s'ils ont de lourdes limitations physiques. Pouvoir utiliser un ordinateur augmente l'autonomie, la participation sociale et permet d'être davantage actif, ce qui contribue à améliorer la qualité de vie de manière générale. C'était « Pour adapter les nouvelles technologies à vos besoins, faites appel à la clinique d'accès aux aides technologiques », un texte d'Aline Fanco-Pernol, paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad.
La rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, roman historique. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. D'une popularité indéniable, le roman historique québécois touche vraisemblablement une corde sensible auprès d'un certain lectorat, dont l'appétit pour les sagas familiales et l'évocation d'épisodes cruciaux ou méconnu de notre passé, est manifestement insatiable. Heureusement pour eux et surtout pour elles, le filon ne semble pas près de se tarir. Après s'être intéressé à Laurier dans « Armand et Sir Wilfrid », Claude Corbeau jette maintenant son dévolu sur le père des cégeps et de l'UQAM, en faisant paraître Daniel Johnson à Manicouagan chez Del Busso Éditeur. 1968. Depuis le début de l'année, Johnson traverse une période tumultueuse. Sa position exprimée dans « Égalité ou indépendance » l'a mené à une impasse, coincée entre la souveraineté prônée par l'évêque et l'intransigeance crasse de Trudeau. La veille de sa mort, seul dans sa chambre à Manicouagan, il revisite les moments clés de sa carrière politique, cherchant à échapper au sentiment d'échec qui l'assaille. La tonitruante Marthe Laverdière présente enfin la suite de sa nouvelle série « La Delle » avec Antonin, chez L'Homme, où Alvénia, secrètement enceinte, accouche dans l'anonymat à Québec et trouve le moyen de garder un œil sur l'enfant, ce qui n'empêchera pas la solitude de faire obstacle à la sérénité à laquelle elle aspire. José Ouimet présente, quant à elle, « Les équations » chez Urtubise, deuxième tome de la série « Un vent d'orage » qui prend place dans le Montréal des années 1940. On y retrouvera Alice Fafard amorçant une nouvelle vie dans une pension de famille. Employée comme calculatrice pour le laboratoire de l'Université de Montréal, elle se plongera avec passion dans des équations complexes et des problèmes mathématiques ardus, savourant son indépendance naissante et goûtant à ses premiers émois amoureux. Enfin, Pascal Dussault entame un nouveau cycle avec le premier tome de la série « À cœur débattant » intitulé « Lazarine l'insoumise » chez Urtubise. Dans le Montréal du 18e siècle, passion amoureuse et intrigue politique se mêlent dans le tumulte de la lutte pour l'indépendance, alors que Lazarine Montminy, une jeune paysanne de 18 ans, nourrit une profonde aversion à l'égard des Britanniques depuis la défaite des Français sur les plaines d'Abraham. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, roman historique. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.